le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.
16h10 sur Radio Immo, Radio Territoria, ravi de vous faire suivre cette troisième et dernière journée de la troisième édition du Salon de l'immobilier bas carbone, ici même au Carrousel du Louvre à Paris. Et je suis ravi de recevoir Éléonore Slama, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vous êtes maire adjointe du 12e arrondissement dans la capitale, en charge du logement, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion. Vous avez écrit un plaidoyer, on va en parler évidemment dans quelques instants, c'est l'objet également de votre visite ici même. Mais pas que, vous êtes également là pour nous parler de l'intérêt qu'il y a par exemple pour un élu d'être présent sur ce type d'événement. Et puis vous également en charge du logement, j'imagine que ce n'est pas un hasard si vous vous retrouvez ici présente.
Oui, alors merci déjà pour votre invitation.
Vous êtes la bienvenue.
C'est important pour moi d'être présent sur ce type d'événement parce que je crois profondément que sur les sujets de la ville, on ne peut pas faire seul dans son coin. Je pense à la vertu du travail en commun, au fait que briser les silos entre le public, le privé, la société civile, avec toujours en ayant au cœur l'intérêt des habitants, c'est vraiment ce qui doit nous guider au quotidien. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour découvrir aussi les innovations et puis ce que les différents acteurs ont décidé de porter cette année sur ces sujets.
Alors justement, est-ce que vous en avez vu des innovations aujourd'hui ?
Je vois que le secteur de la fabrique urbaine continue à innover sur ces questions, que ce soit sur les questions de réemploi, de matériaux biosourcés, géosourcés, la géothermie de surface par exemple, la question de la construction hors site où la filière bois aujourd'hui se développe beaucoup.
Énormément.
Et c'est une très bonne chose, je pense.
Alors, en finir avec le gâchis des mètres carrés, ça c'est votre plaidoyer. Encore une fois, on va en parler dans un instant, peut-être juste avant. Qu'est-ce qui explique, cette ambition à vouloir toujours mettre en avant ce que vous défendez depuis un certain temps, c'est-à-dire la lutte contre le gaspillage? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans, dans le gaspillage immobilier? Pourquoi est-ce que vous en avez fait finalement votre combat?
Alors moi, il y a un vrai moment fondateur, c'est lors du Covid, le confinement. Ouais. Nous avons demandé à chacun de rester chez soi.
On s'en souvient tous.
Voilà, cette maladie, on a éprouvé vraiment dans notre être. Et puis il y avait une population qui avait des difficultés à se confiner. Parce que comment on fait pour se confiner quand on n'a pas de chez soi? Donc c'est la population des sans-abri, qui d'ailleurs est un public particulièrement fragile et qui a une espérance de vie moindre que la population générale. Et donc cette aberration de voir des gens dehors qui n'étaient pas en capacité de se confiner chez eux, et en même temps tant de bureaux, d'hôtels, de mètres carrés vides, disponibles, qui ne servent à rien. Donc moi à l'époque, un peu dans un cri de colère, j'avais pris la plume pour écrire une tribune dans la presse, fait une vidéo pour les réseaux sociaux, j'avais écrit à l'ensemble des hôteliers de mon arrondissement pour les enjoindre de nous aider sur ces sujets et de nous prêter, de nous louer leurs locaux pour pouvoir y abriter des sans-abri, bien évidemment, après une remise en état pour qu'ils puissent retrouver ces hôtels comme ils l'avaient laissé. Mais l'hébergement d'urgence, comme on peut le connaître d'habitude dans des gymnases, etc., ne s'y prêtait pas. Mmh. Et donc voilà. Donc ça avait eu un petit succès à l'époque.
Oui, ça avait fait le buzz,
on
peut le dire. Ouais.
Aller vraiment beaucoup plus loin. Mmh. Et c'est pourquoi je me suis engagée dans ce combat.
Et à l'époque, les hôteliers avaient répondu présent?
Certains, oui, avaient répondu présent, mais on peut encore une fois faire beaucoup plus.
Évidemment, aller beaucoup plus loin. En finir avec le gâchis des mètres carrés, quand on parle de gâchis et de mètres carrés perdus, de quoi on parle concrètement?
Alors, au même titre que le gaspillage alimentaire ou que la fast fashion, la mode jetable, nous vivons au cœur d'un immense gâchis. Alors bien sûr, il y a la vacance, un sujet qu'on connaît un petit peu, 3 millions de logements vacants aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. 5 millions quand même, on a passé la barre des 5 millions de mètres carrés de bureaux vides rien qu'en Ile-de-France. 170 000 hectares de friches aujourd'hui disponibles sur le territoire national. Et puis, il y a, et c'est vraiment là-dessus que j'insiste dans l'ouvrage, il y a la sous-utilisation massive et généralisée de nos mètres carrés. Très concrètement, aujourd'hui, nos bureaux, nos écoles, nos équipements publics sont massivement sous-utilisés. Ils sont à peine utilisés 80% du temps sur l'année. Ces temps morts sont pourtant autant d'opportunités pour accueillir plus d'usages sans devoir construire.
Alors justement, est-ce qu'on peut se projeter comme ça? À quoi ça servirait de se servir justement de ces mètres carrés non utilisés?
Et si, imaginons, demain.
Oui. Projetons-nous, allons-y.
Et si votre école était ouverte à d'autres usages pendant les vacances scolaires, par exemple? on a un exemple à Noirmoutier qui transforme ouais, son école le temps des vacances d'été en centre d'hébergement touristique pour des personnes qui ont des faibles revenus et qui, comme ça, peuvent bénéficier d'un hébergement touristique pendant les vacances. Ça peut être, bien évidemment, des bureaux vides ou moins utilisés. On connaît le phénomène du télétravail qui a pris de l'ampleur. Mmh. Et en même temps, les heures de queue que des étudiants aujourd'hui font pour rentrer dans une bibliothèque, non pas pour y trouver un ouvrage rare, etc., mais parce qu'ils ont besoin d'un espace de travail. Eh bien, pourquoi ne pas proposer d'accueillir nos étudiants dans des bureaux vides ou moins fréquentés, par exemple le vendredi ou le lundi, qui sont des jours où on télétravaille un peu plus. Mmh. Ça peut être des places de stationnement qui sont inutilisées, qui peuvent être transformées par exemple en espace de stockage. Ça peut être votre restaurant d'entreprise, le RIE, qui peut être transformé en brasserie ouverte à tous le soir et le week-end. C'est des choses toutes bêtes. Il s'agit de mieux utiliser, d'optimiser, de maximiser les usages des bâtiments qui nous entourent. Et voilà, il faut changer de regard sur ces mètres carrés.
Et Léonore, quand je vous écoute, j'ai l'impression, et ne le prenez pas mal, que vous enfoncez un petit peu des portes ouvertes. Ça semble tellement évident. Quels sont aujourd'hui finalement les freins à utiliser ces mètres carrés non utilisés justement ?
Vous avez raison de dire, sur ces sujets, rien n'est à inventer, vraiment rien. Mais pourtant, tout reste à faire. Il faut changer d'échelle sur ces questions-là. Ouais. Et c'est ce que moi je me propose de faire déjà en faisant le plaidoyer pour expliquer que là, nous avons matière à agir, que les bénéfices écologiques, économiques et sociaux sont vraiment absolument colossaux pour une meilleure utilisation de nos espaces. Et en même temps, eh bien, il faut s'attaquer aux freins qui aujourd'hui obère notre capacité d'agir, puisqu'il y en a, parce que si c'était si simple, ce serait déjà fait.
C'est quoi ces freins principalement ?
Les freins, ils sont très divers.
De toute nature, mais les principaux, on va dire.
Pour moi, le plus important, c'est le frein culturel. Se dire que c'est possible de voir un espace, de l'imaginer autrement, comme il y a quelques années, si on se remet en arrière, l'autopartage, Vélib par exemple à Paris, c'était quelque chose de complètement novateur. Ça ne l'est plus du tout aujourd'hui, c'est rentrer dans la mentalité, dans la culture commune. Il faut faire la même chose avec nos mètres carrés. Pour moi, c'est vraiment peut-être le frein le plus important. Mais il y a aussi des freins juridiques, réglementaires, assurantiels, de gestion, techniques.
Politique,
je ne crois pas. Je pense que c'est un sujet qui peut rassembler l'ensemble de l'échiquier politique parce que, encore une fois, les bénéfices de l'intensification des usages de nos bâtiments et de nos espaces sont très importants et peuvent nous permettre de mieux vivre ensemble. Quelques mots quand même sur ces bénéfices.
Bien sûr.
Je pense que c'est vraiment crucial. Mieux utiliser nos espaces, eh bien, ça a des bénéfices écologiques assez évidents. Si on utilise mieux, on a moins besoin de construire. N'oublions pas que le secteur de la ville, c'est l'un des plus polluants de la planète. Et même si je salue vraiment l'ensemble des efforts qui sont faits aujourd'hui par le secteur de la fabrique urbaine pour se décarboner, eh bien n'oublions pas que même le plus décarboné des mètres carrés construits sera toujours, toujours un mètre carré de trop s'il n'est pas ou pas assez utilisé. Bien évidemment, il faut continuer à construire. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pour continuer à construire, en particulier des logements, parce qu'on en a besoin, et en particulier des logements abordables. Mais si nous construisions autrement demain, et si les mètres carrés que nous bâtissions étaient des mètres carrés intensément utiles et utilisés, avec un taux d'occupation et un taux d'utilisation vraiment optimisé au maximum, avec des quartiers à haute qualité temporelle, haute qualité d'usage temporel et spatial, je pense que c'est ça l'avenir, intégrer la réversibilité, la mutualisation, l'hybridation, la chronotopie dans la façon dont nous bâtissons nos villes. Après, il y a des bénéfices économiques, c'est important. Le nerf de la guerre, ça reste
C'est un vrai sujet.
Et donc, forcément, si on utilise mieux nos espaces, eh bien, c'est par exemple un partage des charges comme le gardiennage ou le nettoyage, par exemple. C'est potentiellement une nouvelle source de revenus aussi pour les locataires ou le propriétaire d'un site qui le met à contribution, enfin qui le propose à plus d'utilisateurs. Et puis, ça améliore clairement, l'attractivité du bien en question. Donc, c'est important. Et puis, moi, ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question sociale, finalement.
La mixité,
c'est structurant. Apprendre à vivre ensemble et intensifier les usages nous le permet parce que, finalement, ça recrée ce qu'on appelle du frottement entre les usages, des personnes qui sont amenées à se croiser davantage. Ça renforce les liens, ça favorise la mixité, ça améliore la qualité urbaine et notre regard aussi sur les autres. Un exemple, il y a une association que moi j'accompagne, que j'apprécie énormément, qui s'appelle les Bureaux du Cœur, qui a été créée par quelques entrepreneurs à Nantes il y a à peu près 4 ans. Et l'objet de cette association, c'est de dire, la nuit, on a des bureaux qui ne servent à rien. Et on a en même temps un certain nombre de personnes qui dorment à la rue parce qu'ils n'ont pas les possibilités de se loger autrement. Et si un certain nombre de ces personnes qui sont accompagnées, qui n'ont pas, on va dire, de problèmes médicaux, d'addiction, etc., si on les accueillait dans nos bureaux la nuit. Mmh. Et donc, ils ont aujourd'hui, après à peu près 4 ans d'activité, accueilli, je crois, à peu près 400 personnes sans-abri. Il y a 200 entreprises partout en France. Il y a eu plus de 60 000 nuitées de personnes sans-abri dans ces structures. Et donc, on trouve un toit pour la nuit pour une personne sans abri dans un immeuble vide.
On arrive à transformer un bureau comme ça pour accueillir quelqu'un qui va y dormir.
La plupart des bureaux en fait ont une douche, un canapé lit convertible, une petite espèce de cuisine si je puis dire, avec un frigo, etc. Donc en fait oui, on a déjà aujourd'hui pas besoin de faire d'aménagement. Alors il y en a qui le font exprès, mais la plupart du temps on ne fait rien de particulier si ce n'est signer une convention, travailler avec justement des acteurs sociaux pour bien accueillir cette personne accueillie. On parle de pas d'un SDF, on parle d'une personne accueillie. Je pense que c'est important aussi la terminologie.
Bien sûr.
Et ce que je veux dire par là, c'est que cette expérience dans des entreprises a permis aux salariés parfois de changer aussi de regard sur la question de la grande exclusion. Parce
Évidemment.
Qu'on peut avoir peur de ces sujets-là, c'est compréhensible. Ouais. Eh bien, certains salariés qui pouvaient être un petit peu réfractaires à l'idée qu'une personne sans-abri puisse dormir dans leur bureau la nuit, ont changé de regard progressivement parce qu'ils l'ont croisé le matin, ils ont pris un café avec lui, croisé le soir quand lui venait dormir. Eh bien, ça peut aussi créer des synergies insoupçonnées. Mon voisin cherche quelqu'un pour faire un petit travail, etc. Est-ce que ça t'intéresse ? Ou ma tante a une chambre allouée pendant quelques semaines à bas coût. Est-ce que tu veux ? Enfin voilà. Et donc il y a plein de choses comme ça aussi qui peuvent, des belles histoires qui peuvent naître de tout ça.
Ce que vous voulez dire finalement, c'est que si on arrive ensemble, c'est-à-dire à faire preuve d'intelligence collective, on peut trouver des solutions et enfin s'emparer des mètres carrés non utilisés. Vous avez une sacrée guest star là, sur la préface,
oui.
Jean-Louis Borloo.
Tout à fait. Oui.
Donc j'imagine qu'il n'a pas hésité une seconde.
Il a été très encourageant, donc Jean-Louis Borloo, ancien ministre d'État,
évidemment.
Qu'on ne présente plus. Et c'était très important pour moi aussi d'avoir ces mots en préface de ce livre, parce que je voulais montrer que ce sujet n'est pas un sujet politique. Encore une fois, que l'ensemble de l'échiquier peut s'en emparer, tout simplement parce qu'il est positif. Et je ne l'ai pas dit, mais un autre point très très important, c'est que intensifier les usages est quelque chose d'assez naturel, de logique dans les villes denses, les grandes métropoles comme Paris, par exemple, où le foncier disponible se fait très rare. Mais c'est tout à fait pertinent, voire peut-être plus même, dans des zones rurales ou des villes moyennes, puisque ça permet aussi potentiellement d'utiliser un lieu autrement, pour plus de services, d'offrir donc des services supplémentaires à des usagers ou des riverains d'un site, et puis de répondre à un besoin dans un environnement qui peut disposer parfois de ressources limitées. Et en ce sens-là aussi, ça peut nous permettre de mieux vivre ensemble. On parle aujourd'hui beaucoup de la perte des services publics sur les territoires. Ça peut être une façon de contribuer à y répondre.
Est-ce qu'on parle un petit peu de l'intensiscore ? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ?
Oui, alors, il y a le plaidoyer, parce que le frein culturel, j'en ai parlé, c'est important.
Évidemment, ouais.
Mais il n'y a pas que ça. Il ne suffit pas d'appeler le changement pour qu'il l'advienne. Il faut créer les conditions du changement. Et c'est ce que je me suis employée à faire avec un groupement d'acteurs, une alliance publique-privée, que j'ai réunie autour de moi avec Parisenco, qui copilote cette démarche. Eh bien, nous avons décidé de travailler ensemble et d'élaborer des outils dont chacun vont pouvoir s'emparer, dont cet intensiscore. Mais permettez-moi quand même de citer ces acteurs pionniers qui s'engagent. Il y a bien sûr l'État, la direction de l'immobilier de l'État, la ville de Paris,
dont
je suis issue en tant qu'élue, SNCF Immobilier, mais aussi des groupes privés comme Bouygues Construction, Link City, JLL, Novaxia, SFL, tous ces acteurs-là, accompagnés d'experts, des urbanistes, des architectes, des notaires, nous travaillons ensemble pour lever les freins et les obstacles à une meilleure utilisation de nos espaces. Et donc nous sortons le 15 octobre prochain l'IntensiScore, qui est
donc le taux d'usage des bâtiments, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est la première échelle de mesure du taux d'usage des bâtiments et des espaces qui va vous permettre d'objectiver concrètement l'utilisation d'un espace, de révéler au monde le gâchis des mètres carrés. Bon, c'est un peu pompeux, on est quand même sur un prototype, mais l'objectif c'est ça, c'est d'avoir une visée pédagogique pour faire comprendre que là on a matière à agir, ouais. Mais non pas par on va dire une vision culpabilisatrice, ouais. Mais au contraire montrer que c'est désirable, avoir une vision incitative des choses. Et accompagné de cet IntensiScore, donc qui sera une plateforme en ligne très simple, intensiscore.fr, et qui sera aussi retrouvable sur le site mètrecarréintense.com, eh bien vous pourrez rentrer les caractéristiques en répondant à quelques questions de votre espace, avoir une idée donc objectivée de cet espace, mais aussi des solutions concrètes pour l'intensifier à plus ou moins bas coût, parfois gratuitement, et parfois en mettant en œuvre des travaux un peu plus importants. Et donc c'est vraiment un guide qu'on a souhaité aussi mettre en place, qui sera téléchargeable également de manière ad hoc, où vous pouvez retrouver des solutions très concrètes pour lever tous les freins dont je vous ai parlé tout à l'heure, juridiques, assurantiels, réglementaires, de gestion. On a même travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur la question de la réglementation incendie avec les pompiers, oui. Parce que c'était un des freins qui sont aujourd'hui en œuvre pour aller plus fort, plus loin sur ces questions.
Donc le taux d'usage des bâtiments, c'est l'IntensiScore donc, qui sort le 15 octobre, accompagné donc d'un vrai guide sur les freins qui sont aujourd'hui existants et qu'il faut lever. On est bien d'accord là-dessus. Et puis on va peut-être terminer sur quelques projets pilotes aussi que vous mettez un peu partout en France. Est-ce qu'on peut donner comme ça un ou deux exemples?
Oui, alors l'idée c'était de montrer que il y a matière à agir, le plaidoyer, oui. Qu'on peut aider les gens à avancer sur ces questions avec ces deux outils qui vont sortir, et puis de montrer que c'est possible.
Oui.
Et donc
la preuve.
Voilà, la preuve par l'exemple, c'est toujours bien. Et donc c'est l'objet de ces projets pilotes. Il y en a 17 partout en France,
okay.
Sur différents types de territoires. Pour vous expliquer, on a essayé vraiment de prendre une diversité d'actifs importants. Vous avez par exemple un centre commercial en Ile-de-France. Vous avez un établissement culturel d'envergure également en Ile-de-France. Vous avez des écoles. Vous avez des bureaux en province, à Rouen. Vous avez des équipements publics à Montpellier. Bref, on a essayé vraiment d'embrasser l'ensemble du champ de l'immobilier pour montrer que intensifier les usages, c'est possible partout. Mmh. Alors, c'est pas pour ça que c'est souhaitable de le faire à 100% tout le temps, partout. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Ouais, parce qu'en plus, c'est pas toujours possible.
C'est pas toujours possible et c'est pas toujours souhaitable. Il y a quand même un sujet très important là-dedans, oui. C'est la question de l'acceptabilité. Mmh. L'acceptabilité sociale. On ne pourra pas faire cette révolution sans les gens. Donc il faut bien évidemment adhérer à tout ça et montrer qu'on y gagne, qu'on gagne en qualité de vie, qu'on ne va pas
plus qu'on y perde.
Plus qu'on y perd, bien sûr. Et ça, c'est très important, on ne fera rien contre les gens. Donc voilà, en tout cas, c'était l'objet de ces projets pilotes et on espère pouvoir grandir. Donc vraiment, vraiment, chacun doit pouvoir déjà comprendre qu'on a un sujet là d'action, et au même titre que le gaspillage alimentaire, encore une fois, et que chacun peut devenir acteur du changement, qu'on soit simple citoyen, qu'on soit un propriétaire, un promoteur immobilier, un aménageur, qu'on soit un membre de la fabrique urbaine ou pas, on a tous matière à agir. Et bien évidemment, la puissance publique et les élus doivent être moteurs.
Bon, il n'y a pas trop de mètres carrés de perdu dans le 12e arrondissement?
Il y en a comme partout aujourd'hui, mais on y travaille et comptez sur moi pour y remédier.
Bah, évidemment.
Non, mais là-dessus, j'ai proposé à Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire, qui était donc l'adjoint en charge de l'urbanisme, de faire de Bercy-Charenton la dernière grande emprise foncière de la capitale, le premier quartier HQT, le premier quartier à haute qualité d'usage temporel et spatial. Mmh. C'est un nouveau morceau de ville qui va naître là-bas, 3500 habitants, des bureaux, des commerces, des équipements publics. Eh bien, ce qui sera construit demain là-bas, eh bien, ce sera intensément utile. On va en faire un démonstrateur plutôt qu'un laboratoire.
Un autre projet pilote, quoi.
Exactement.
Un grand merci d'être venu sur ce plateau.
Merci pour votre invitation.
Bonne fin de journée ici sur le salon. Merci encore une fois d'avoir répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité. On était ravis de vous faire suivre sur ces trois jours cette troisième édition du salon de l'immobilier bas carbone, ici donc au Carrousel du Louvre. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur Radio Immo et Radio Territoria, également disponibles sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts en replay. Merci et à très vite. Salut.
Le salon de l'immobilier bas carbone du 17 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris sur Radio Immo et Radio Territoria.